Les mystères du Dolph par Anne Radcliffe. Chapitre 35. Blanche avait pris tant d'intérêt à Émilie qu'en apprenant qu'elle voulait résider au monastère voisin, elle pria le comte de l'engager à prolonger son séjour au château. « Vous concevez, ajouta Blanche, combien je serais contente d'avoir une telle compagne. À présent, je n'ai point d'amis avec qui je puisse lire ou me promener. Mademoiselle Béart ne n'est que l'amie de maman. » Le comte sourit de cette simplicité enfantine qui faisait céder sa fille aux premières impressions. Il avait observé Émilie avec attention, et elle lui avait plu autant qu'une si courte connaissance pouvait le comporter. La manière dont M. Dupont lui avait parlé d'elle avait même confirmé sa présomption. Mais très soigneux pour les liaisons de sa fille, et apprenant qu'Émilie était connue au couvent de Sainte-Claire, il se détermina à visiter l'abbesse, et si son témoignage répondait à son désir, il voulait inviter Émilie à passer quelques jours au château. Il avait en vue sous ce rapport l'agrément de la jeune Blanche, plus que le désir d'obliger l'orpheline Émilie. Néanmoins, il prenait à elle un véritable intérêt. Le lendemain matin, Émilie, trop fatiguée, ne put descendre. Dupont était à déjeuner quand le comte entra dans la salle et le pria, comme ancienne connaissance et le fils d'un de ses amis, de prolonger son séjour au château. Dupont y consentit volontiers, parce que cette circonstance pouvait le retenir auprès d'Émilie. Il ne pouvait, au fond de son âme, entretenir l'espérance qu'elle répondrait jamais à sa vive affection, mais il n'avait pas le courage de travailler à la vaincre. Émilie, quand elle fut reposée, se promena avec sa nouvelle amie sur la pelouse qui entourait le château et fut aussi sensible à la beauté de ses points de vue que Blanche, dans la franchise de son cœur, avait pu le désirer. En rentrant au château, Blanche conduisit Émilie à la tour qu'elle aimait, et elles parcoururent les anciennes chambres que Blanche avait déjà visitées. Émilie s'amusa à en examiner les distributions, à considérer le genre et la magnificence de leurs meubles antiques, et à les comparer avec ceux du château du Dolph, qui était cependant plus vieux et plus extraordinaire. Elle remarqua aussi Dorothée, qui les accompagnait, et qui semblait presque aussi ancienne que tout ce qui était autour d'elle. Elle parut voir Émilie avec un intérêt extrême. Elle la regardait même avec tant d'attention qu'à peine entendait-elle ce qu'on pouvait lui dire. Émilie, placée à une des fenêtres, jeta les yeux sur la campagne et vit avec surprise beaucoup d'objets dont sa mémoire gardait le souvenir. Les champs, les bois, le ruisseau qu'elle avait traversé avec voisin, un soir après la mort de M. Saint-Aubert, en revenant du couvent à la Chaumière. Elle reconnut que ce château était celui qu'elle avait alors évité, et sur lequel il avait tenu d'étranges discours. Frappée de cette découverte, effrayée sans savoir pourquoi, elle resta quelque temps en silence, et se rappela l'émotion qu'avait montrée son père en se trouvant si près de cette demeure. La musique aussi qu'elle avait entendue, et sur laquelle voisin lui avait fait un conte si ridicule, lui revenait à l'esprit. Curieuse d'en apprendre davantage, elle demanda à Dorothée si l'on entendait encore de la musique à minuit, comme autrefois, et si l'on connaissait le musicien. « Oui, mademoiselle, » répondit Dorothée, « on entend toujours cette musique. Mais le musicien n'est pas connu, et je crois ne le sera jamais. Il y a des gens qui devinent ce que c'est. » « Vraiment ?» dit Émilie. « Et pourquoi ne pas poursuivre cette recherche ?»« Ah, mademoiselle, on a assez cherché. Mais qui peut suivre un esprit ?» Émilie sourit, et se rappelant combien tout récemment elle avait souffert par la superstition, elle résolut alors d'y résister. Néanmoins, en dépit de ses efforts, elle sentait une certaine crainte se mêler sur ce point à sa curiosité. Blanche, qui jusqu'alors avait écouté en silence, demanda ce que c'était que cette musique, et depuis quand on l'entendait. Blanche se taisait. Dorothée paraissait sérieuse et soupirait. Émilie se sentait portée à croire plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Elle se rappelait le spectacle dont elle avait été témoin dans une chambre à Udolph, et par quelle bizarre liaison les paroles alarmantes qu'elle avait trouvées sans dessein dans les papiers qu'elle avait détruits par obéissance aux ordres de son père. Elle frémissait à la signification qu'il semblait avoir, presque autant qu'à l'horrible objet découvert sous le funeste voile. Blanche, cependant, ne pouvant engager Dorothée à expliquer ce qu'elle avait voulu dire, l'avait priée, en se retrouvant auprès de la porte fermée, de lui faire voir tous les appartements. « Ma chère demoiselle, lui répondit la concierge, je vous ai dit mes raisons pour ne pas l'ouvrir. Je ne l'ai jamais revu depuis la mort de ma bonne maîtresse. Il serait affreux pour moi d'y entrer. De grâce, ne me le demandez pas. » « Non, certainement, répondit Blanche, si c'est votre véritable raison. » « Hélas, c'est l'unique, dit la vieille femme. Nous l'aimions si tendrement. Je la pleurerai toujours. Le temps passe. Il y a bien des années qu'elle est morte. Et je me souviens pourtant de tout ce qui arriva alors, comme si c'était hier. Plusieurs choses très nouvelles sont sorties de ma mémoire. Mais les anciennes, je les vois comme dans une glace. » Elle se tut, et en avançant dans la galerie, elle reprit en regardant Émilie. « Cette jeune dame me rappelle Madame la Marquise. Je me souviens qu'elle était aussi fraîche et qu'elle avait le même sourire. Pauvre dame, qu'elle était gaie lorsqu'elle fit son entrée ici. » Dorothée garda le silence à toutes les questions que lui fit Blanche. Émilie, remarquant des pleurs dans ses yeux, cessa de la presser davantage et s'efforça d'attirer l'attention de sa jeune amie sur quelques parties des jardins. Le comte, la comtesse et Monsieur Dupont s'y promenaient. Elles allèrent les y joindre. Quand le comte aperçut Émilie, il avança vers elle et la présenta à la comtesse d'une manière si flatteuse et si obligeante qu'il rappela à Émilie l'idée de son propre père. Avant d'avoir achevé ses remerciements pour l'hospitalité qu'elle avait reçue et d'avoir exprimé le désir de se rendre aussitôt au couvent, elle fut interrompue par une pressante invitation de prolonger son séjour au château. Le comte et la comtesse parurent y mettre tant de sincérité que, malgré le désir qu'elle avait de revoir ses anciennes amies du monastère et de soupirer encore sur le tombeau d'un père chéri, elle consentit à rester quelques jours. Elle écrivait néanmoins à l'abbesse pour l'informer de son arrivée et lui demandait à être reçue au couvent comme pensionnaire. Elle écrivit aussi à Monsieur Quesnel et à Valancourt. Et comme elle ne savait où adresser précisément cette dernière lettre, elle l'envoya en Gascogne chez le frère du chevalier. Sur le soir, Blanche et M. Dupont accompagnèrent Émilie à la chaumière de voisins. Elle sentit, en s'en rapprochant, une sorte de plaisir mêlé d'amertume. Le temps avait calmé sa douleur, mais la perte qu'elle avait faite ne pouvait cesser de lui être sensible. Elle se livra avec une douce tristesse au souvenir que ce lieu lui rappelait. Voisins vivaient encore et semblait jouir, comme autrefois, du soir paisible d'une vie sans reproche. Émilie n'osa prendre sur elle d'entrer dans la chambre où Saint-Aubert était mort, et après une demi-heure d'entretien avec voisin et sa famille, elle sortit de la chaumière. Pendant les premiers jours qu'elle passa au château de Blangy, elle vit avec chagrin la mélancolie profonde, quoique muette, qui trop souvent absorbait M. Dupont. Émilie plaignait l'aveuglement qui le détournait de s'éloigner d'elle, et elle résolut de se retirer aussitôt qu'elle le pourrait, sans désobliger le comte et la comtesse de Villefort. L'abattement de son amie ne tarda pas à alarmer le comte, et Dupont lui confia enfin le secret d'un amour sans espoir. Le comte ne put que le plaindre, mais il se détermina en lui-même à ne pas négliger un moyen de favoriser ses prétentions. Quand il connut la dangereuse situation de Dupont, il ne s'opposa que faiblement au désir qu'il témoigna de quitter le château de Blangy dès le lendemain. Il lui fit promettre d'y venir passer avec lui un temps plus long, quand son cœur serait en repos. Émilie, qui ne pouvait encourager son amour, estimait ses bonnes qualités et était très reconnaissante de ses services. Elle éprouva une tendre émotion quand elle le vit partir pour la Gascogne. Il se sépara d'elle avec une expression si touchante d'amour et de douleur que le comte embrassa sa cause bien plus chaudement qu'il ne l'avait encore fait. Peu de jours après, Émilie elle-même quitta le château. Mais ce ne fut pas sans promettre au comte et à la comtesse de venir souvent les voir. L'abbesse la reçut avec cette bonté maternelle dont elle lui avait déjà donné des preuves, et les religieuses lui témoignèrent leur amitié. Ce couvent qu'elle avait si bien connu réveilla ses tristes souvenirs, mais il s'en mêlait d'autres. Elle rendait grâce au ciel de l'avoir fait échapper à tant de dangers. Elle sentait le prix des biens qui lui restaient. Et quoique le tombeau de son père fût souvent arrosé de ses larmes, sa douleur n'avait plus la même amertume. Quelque temps après son arrivée au monastère, Émilie reçut une lettre de son oncle, M. Quesnel, en réponse à la sienne et sur ses questions sur ses affaires, qu'il avait prétendu gérer en son absence. Elle s'était informée surtout du bail de la vallée qu'elle désirait habiter si sa fortune lui permettait. La réponse de M. Quesnel était froide et sèche comme elle s'y était attendue. Elle n'exprimait ni intérêt pour ses souffrances, ni plaisir de ce qu'elle s'y était dérobée. Quesnel ne perdait pas cette occasion de lui reprocher son refus à l'égard du comte Morano, qu'il affectait de représenter comme riche et homme d'honneur. Il déclamait avec véhémence contre ce même Montoni, auquel jusqu'à ce moment il s'était reconnu si inférieur. Il était laconique sur les intérêts pécuniaires d'Émilie. Il lui apprenait cependant que le terme du bail de la vallée expirait. Il ne l'invitait point à venir chez lui, et ajoutait que ne pouvant, dans l'état de sa fortune, habiter la vallée, elle ferait bien de rester à Sainte-Claire. Il ne répondait point à ses questions sur le sort de la pauvre vieille Thérèse, la servante de son père. Par post-scriptum, M. Quesnel parlait de Motteville, entre les mains duquel Saint-Aubert avait placé la majeure partie de son bien. Il annonçait que ses affaires étaient au moment de s'arranger, et qu'elle en retirerait plus qu'elle n'aurait dû s'y attendre. La lettre contenait encore un billet à l'ordre d'Émilie pour toucher une modique somme sur un marchand de Narbonne. La tranquillité du monastère, la liberté qu'on lui laissait de parcourir les bois et les rivages de ce charmant pays, tranquillisèrent peu à peu l'esprit d'Émilie. Cependant, elle éprouvait quelque inquiétude au sujet de Valancourt et voyait avec impatience approcher l'instant de recevoir enfin sa réponse.